pour enchaîner avec notre invité, j'ai rencontré Daniel, notre invité, je peux même pas te dire quand. il m'avait contacté puis tout ça, et en lui jasant, je me suis rendu compte, puis je le réfère toujours comme étant le gars le plus libertarien que je connaisse. Pas juste par sa pensée, mais par ses actions, parce que c'est bien beau de dire on est libertarien, on en rencontre tous. Ah oui, moi je suis libertarien, mais en fait, tu te rends compte que dans sa vie de tous les jours, ben écoute, il vit dans le socialisme, c'est-à-dire qu'il va envoyer ses enfants au CPE, il va travailler comme fonctionnaire pour le gouvernement. Bon, mais lui a décidé de vivre en libertarien. Je crois que de vivre en libertarien, c'était difficile au Québec, donc il s'est exilé, il est au Guatemala. Salut Daniel.
Bonjour.
Bonjour Daniel.
Oui.
Donc, moi, là, ce que je suis curieuse de savoir, c'est au départ, qu'est-ce qui a fait en sorte que ta pensée a changé de, parce que je crois que tu étais socialiste, de socialiste à libertarien?
Oui, en passant, c'est la première fois de ma vie que je fais une entrevue. Fait que pour vos écouteurs, là, Julie m'a convaincu d'en parler. Sinon, je reste quelqu'un plus, disons, tranquille. J'en parle avec des
amis,
mais
pas au public. Ça va très bien aller.
Ben, moi, je dirais que quand j'étais à l'école, peut-être même la première année primaire, j'ai quand même une bonne mémoire, on nous parlait des problèmes socialisés, puis la question, c'était, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour résoudre tel problème? J'avais pas le concept de l'État, mais on savait c'était quoi le gouvernement, même quand on était très jeune. Donc, tout le temps que j'ai grandi, ça a toujours été, ben, quand il y a un problème, puis il y a toujours des problèmes, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Ça nous met un peu dans une boîte. En anglais, il y a qu'est-ce qu'on appelle thinking out of the box. Ben, si tu penses toujours qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour résoudre le problème, t'as pas beaucoup d'options. Même lorsque j'étais à l'université, on avait des exercices à faire. Puis j'étudie comme ingénieur, donc c'est pas là, j'ai pas étudié là, les sciences politiques, mais malgré tout, on avait des cours. Puis c'était tellement biaisé les cours. Je me souviens, si je peux prendre quelques minutes, on avait un exercice que on faisait la simulation du commerce entre les pays. Premièrement, c'est pas les pays qui font du commerce, c'est les individus entre les pays qui s'échangent des biens et services, et non des pays. Puis ça se donne que moi, l'équipe que je me suis retrouvée, c'est celle-là de l'Afrique. Puis on avait des papiers, des ciseaux, des compas, puis il y avait aussi des petits stickers rouges. Je me souviens très bien de l'exercice. Puis il fallait faire des cercles. Puis nous autres, l'Afrique, on avait eu, c'était une feuille de papier, puis on n'avait pas de ciseaux, on n'avait pas de compas. Fait que il fallait déchirer le papier pour essayer de faire des cercles. Tu avais les États-Unis, eux autres, qui avaient reçu une pile de 500 feuilles de papier. Il y avait les ciseaux, les compas. Tu avais le Japon qui avait des compas, puis des ciseaux, mais pas de papier. Puis tu avais le Brésil qui, lui, avait plein de papier, mais il n'y avait pas l'affaire. Puis là, ben là, le monde essaie de faire des échanges. Puis là, il expliquait, le gars, que ben là, ça prenait le gouvernement pour régulariser les affaires, puis tout ça. Puis finalement, quand que tu regardes les choses d'un truc plus tard, puis là, en plus, il fallait que tu aies le sticker, que ça soit approuvé par l'Organisation internationale du commerce. T'sais. Ça, c'était le concept qu'on avait. Puis là, c'était d'en discuter comment qu'on pourrait améliorer puis de faire un système plus équitable. Puis finalement, le fameux sticker rouge qu'il fallait appliquer sur le cercle, pour qu'il soit vendable et accepté par le professeur, parce que le but, c'était d'en faire le maximum. Puis le professeur, ben, vu que nous autres, il était découché au papier parce qu'on n'avait pas de ciseaux, puis on n'avait qu'une feuille de papier et qu'on ne pouvait pas vraiment négocier avec les autres pays qui avaient plein de ressources, finalement, ils nous avaient donné, je pense, un demi-crédit ou quelque chose comme ça. T'sais, ça a été une leçon. Écoute, je me souviens de cet exercice-là. Mais c'était tellement subtil de la comment que... Le système était, puis là, c'est comment de réformer l'Organisation internationale du commerce pour inclure l'Afrique, puis là, ben là, si chaque pays donnait un petit peu, ça pourrait aider, puis ci, puis ça, puis moi, quand j'étais à l'université, le cours d'économie nous expliquait que une guerre, c'est une bonne chose, parce que ça crée des emplois, puis l'économie allait pas bien, ben, il fallait que le monde prenne de l'argent, parce qu'il manquait d'argent dans le système. Donc, tu empruntes de l'argent pour que tu puisses dépenser. Puis là, ma question, c'est, ouais, mais si tu empruntes de l'argent parce qu'il manque d'argent dans le système, il va falloir un jour que tu la repayes, cet argent-là. Donc, oui, tu viens de repousser le problème à plus tard. Puis en plus, tu payes avec intérêt, c'est-à-dire que dans plus tard, il va avoir moins d'argent dans le système.
Donc, non, mais saviez-vous que les femmes battues aussi, hein, les femmes battues, là, ça crée de l'emploi,
Ben, tous les phénomènes. Toutes les histoires du tsunami au Japon, puis ça, je peux en parler longtemps. Écoute, un coup que tu regardes les choses dans un autre angle, tu t'aperçois que ça n'a aucun sens. Puis, d'un autre côté, on m'enseignait à l'université que quand il y avait trop d'argent dans l'économie, puis là, jamais qu'on posait la question pourquoi il y a trop d'argent. Tu sais, c'était comme un fait, un peu comme, mettons, ben, il y a un orage ou il y a une tempête, puis il y a trop d'argent. Là, le gouvernement vend des bons, donc le monde donne de leur argent au gouvernement en échange d'un bon, puisqu'ils ne peuvent pas dépenser le bon, ça l'enlève l'argent en circulation. Puis là, ma question, c'est, oui, mais qu'est-ce que ça fait quand ces personnes-là vont revendre leurs bons? Ça va être de l'argent qui va retourner dans l'économie. Oui. Et en plus, souvent, ils vont avoir des intérêts parce qu'ils ne font pas ça par charité. Puis, j'ai très bien réussi. J'ai pas poché aucun cours, mais j'avais des réponses, puis des questions qui n'avaient pas de réponses. Et j'étais curieux, fait que je me suis mis à chercher sur Internet. Puis, j'étais socialiste dans le sens que j'avais eu l'éducation que tout ce que le gouvernement donnait, c'était quasi gratuit. Donc, j'ai grandi, on n'était pas riche, on était quand même très pauvre, ben pas très pauvre, mais tu sais, je dirais, il fallait tout qu'on travaille. Mais on avait beaucoup pour à cœur d'aider les autres qui étaient encore plus démunis que nous autres. Fait que c'est comme ça que j'ai grandi. Puis pour aider les pauvres, ben, si le gouvernement offrait de la nourriture, puis il offrait les maisons pas chères, puis transportation. Mais le problème que j'avais, c'est que je suis quelqu'un qui cherche des vraies solutions. Puis là, je réfléchis, je dis comment? C'est pas juste ça devrait être, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Un plan d'action. Puis à toutes les fois que je pensais à un plan d'action, il y avait toujours un problème. Ah, si on fait ça, ça va résoudre la corruption. Si on fait tel système, ben là, c'est des incompétents qui vont être en place. Si on fait ça, tu sais, j'étais jamais capable de trouver une solution au système de dire, ben, si le gouvernement fait les maisons, là, la question, c'est, ben, quel genre de maison qu'on va bâtir? Si le gouvernement s'occupe de la nourriture, ben, qui va distribuer? Puis là, dis-moi, mais le bureaucrate qui distribue la nourriture, il va sûrement donner à ses amis ou garder ça pour lui. C'était pas facile de dire, OK, c'est comme ça. Puis, mettons, même si on est d'accord. Puis, en lisant un jour, j'ai eu un article qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est comment que donner du welfare, parce que c'est tout en anglais que les articles finalement libéraux, que si tu transfères de l'argent d'une personne riche à une personne qui est pauvre, assumant qu'il n'y a aucune corruption, assumant qu'il n'y a aucune perte, qu'il n'y a rien, la personne qui est pauvre ne produira pas, OK, elle va consommer, donc elle va appauvrir la société.
Et le riche va s'appauvrir par le fait même.
Le riche va s'appauvrir. Mm-hmm. Le riche aussi va se décourager. Il va avoir moins de motivation à travailler. Puis là, c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu. Tout le système que j'avais qui était de dire, oh, on a besoin de l'État pour aider le sort des pauvres. Puis là, oublie l'histoire de régulation qui empêche les petites entreprises. Oublie ça. On parle là simplement d'un transfert, de dire, on va prendre la personne comme un gars comme Bill Gates qui a beaucoup d'argent, qui a même son NL 10%, il s'en rendra même pas compte. Puis on va le donner à 1000 personnes qui sont très, très pauvres. Puis après ça, c'est là que je me suis mis à lire. J'ai beaucoup lu sur Mises.org, Ludwig von Mises Institute, qui s'appelle The Austrian School of Economics. D'ailleurs, je suis tombé sur ce site-là au hasard. C'est un article, je crois, qui a été écrit par un Pierre qui est du Québécois libre. J'ai oublié son
Pierre
nom.
Pierre Desrochers?
Peut-être.
Je pense que c'est Pierre Desrochers.
Il y avait en bas de la page un lien subscribe. J'ai mis mon email puis je me suis mis à recevoir l'article à chaque jour. Puis ça a été fascinant parce que ça parle des problèmes de la vie courante, mettons comme un article, une fois, si ça a l'air banal, les tomates fripées sont bannies en Floride. Puis là, c'est comme, non, mais pourquoi ils ont été bannis? C'est que ceux qui ont des belles tomates veulent pas avoir la compétition de ceux qui ont des tomates fripées, donc ils vont voir le tour pour faire une loi. Puis là, la solution, c'est pourquoi pas laisser les consommateurs choisir s'ils veulent acheter des belles tomates lisses ou des tomates fripées? Puis, si les tomates fripées sont moitié prix, peut-être que du monde dit, ben, moi, je fais une soupe, ou peu importe, ça me dérange.
Je m'en fous, c'est ça, je fais de la sauce à spaghetti.
Puis, c'est tous des articles, mais quand ça fait 10 ans ou 12, 13 ans, ça fait ça que je lis, à un moment donné, on finit par assimiler le concept, on finit d'oublier tout ce qu'est-ce qu'on a été, l'éducation publique qu'on nous a enseigné, toutes ces doctrines.
Mais regarde, Dan, tu parles des tomates. Moi, je fais juste référence au Québec avec l'industrie du lait et les quotas. C'est rendu que le petit fermier qui a 3-4 vaches, lui, il peut consommer son lait, mais il n'a pas le droit de vendre son lait à son voisin, quoi que ce soit.
Non,
tout est régularisé. On jette des quantités incroyables de lait. Moi, je regarde à chaque fois que je vais au Québec, je m'amuse. Écoute, j'ai de la famille qui vit proche des douanes américaines. Eux, ils traversent. Pas compliqué, ils vont traverser. Puis souvent, le commentaire, c'est « Ah, oh, le lait américain, c'est boosté, c'est pas bon.
Ben
» Moi,
oui.
j'ai toujours consommé du lait organique. Mon lait organique
Bio,
coûte bio,
biologique.
biologique. Mon lait
Ouais, biologique,
biologique
c'est vrai.
coûte par gallon. Là, je veux dire, si tu compares les poches de lait, puis tu convertis tout ça, moi, c'est à peu près 4 à 5 $ de moins que je paye avec du lait biologique versus le lait basic du Québec. Puis on a beau essayer de nous argumenter, de dire, ah, mais nous, la qualité, la qualité. La même chose avec la SAQ, c'est que tu crées un monopole, tu crées des lois, puis tu barres toute concurrence. Ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des abus d'un bord. Puis les consommateurs sont piégés, puis ils peuvent rien faire d'autre. Alors,
Absolument.
écoute, les tomates, c'est bête. D'interdire une tomate qui n'est pas fraîche ou qui n'est pas lisse, c'est imbécile.
Non, ils sont fraîches. Ils sont juste qu'ils ont une forme un peu
Oui.
plissonnée,
Oui.
là. Le gars avait des photos, là, puis c'était vraiment l'association des tomates qu'il n'aimait pas, qu'il y avait eu. Enfin, mais c'est banal, mais quand tu lis plusieurs articles comme ça, que ce soit sur n'importe. À un moment donné, on finit qu'on acquiert un contexte différent, puis. Qu'est-ce que j'aimais de Mises, c'est qu'il parle de solutions, pas juste de problèmes. À un moment donné, avant même de lire l'article, j'ai déjà une idée de qu'est-ce qu'ils vont suggérer comme solution.
Oui.
C'est ça qui a changé, je dirais, le site web qui a eu le plus d'impact sur ma vie, c'était ce site-là, de Gulliver von Mises.
Ben, en fait,
C'est tout gratuit, ont des livres, des PDF.
la
Oui.
solution pour eux à 90%, c'est subventionné. Toutes les
Le mien,
solutions, les
oui.
problèmes de banque, on va bailer out, les problèmes de l'industrie des poissons, du lait, c'est la subvention. Et les subventions, ils viennent de où? Ils viennent soit des poches des contribuables ou bien ils viennent des. On emprunte. On emprunte. Tu te ramasses avec un Québec qui a une dette de quoi? Au-delà de 250 milliards de dollars. Cette dette-là n'a pas été faite parce que les contribuables sont irresponsables. C'est parce que l'État s'est endetté et a décidé de prendre des décisions qui font qu'il n'y a même plus moyen de rembourser cette foutue dette-là. Fait que.
Mais Dan, toi, bon, là, ça t'a ouvert les yeux, mais par la suite, t'as commencé à, dans ta vie de tous les jours, à vivre en libertarien. Tu t'es comme détaché de l'État de plus en plus.
Ben, ça commence mentalement. Je
Oui.
dirais, ça a été beaucoup de lecture. Je dirais, une des choses que j'ai vitement constatées, c'est qu'au Québec, il n'y avait pas beaucoup grand-place pour le libertarien. Donc, j'ai cherché, j'ai voulu, je me cherchais une communauté que je pouvais vivre. Ça, c'était une des premières choses que j'ai fait une démarche. J'ai même fait une subscription, qu'est-ce qu'on appelle le Free State Project au New Hampshire.
Oui.
C'était avant même l'an 2000, donc c'était quand même assez avant-gardiste. J'ai eu la chance de parler personnellement avec Jason Soren, qui était le fondateur des personnes. Qu'est-ce qui est arrivé malheureusement, c'est qu'après le 11 septembre, c'était pratiquement impraticable parce que venir aux États-Unis, c'était devenu de plus en plus hostile. Dans le passé, c'était quand même assez facile, surtout pour quelqu'un qui est un Canadien, puis que tu as l'air canadien. Là, je dis pas si t'es un immigrant qui est arrivé puis qui t'ont nationalisé canadien, mais si tu as l'air d'un Canadien normal à l'US aux États-Unis, c'était toujours, je dirais, agréable. Puis aussi, le fait que je me suis dit, si je vais aux États-Unis, je vois comme un citoyen de deuxième classe. J'avais cette impression-là, dans le sens que tu seras jamais accepté 100%, mais il va falloir que tu payes les taxes, tu n'auras pas le droit d'avoir, mettons, des armes ou des trucs comme ça. Tu sais, le temps d'avoir une citoyenneté, ou même si tu as une citoyenneté, si tu n'es pas né là-bas. Puis j'ai eu des très, très bonnes expériences aux États-Unis, rencontrer du monde. Donc, je me suis mis à chercher d'autres alternatives. J'ai beaucoup cherché sur Internet, toutes les petites communautés qu'il y avait, que ce soit du monde qui voulait faire un village libertarien, tout ça. Je dirais que ce qui me manquait le plus, c'est à toutes les fois que je visitais leur site web ou tout ça, je disais, c'est quoi les règlements, comment que ça fonctionne, qui est en charge ici, comment que le système de décision est pris. Puis la majorité du temps, c'était, ben, le fondateur, c'est lui qui décide tout, grand Manitou, grand Michoui, qui est
ouais.
Je veux dire,
ouais, puis là c'est comme puis nous autres ben il faut absolument que tout le monde mange organique. Bon, là c'est comme ben c'est parce que j'ai rien contre ça, mais je veux pas qu'on l'impose. J'ai parlé avec d'autres personnes, même des chefs de tribus autochtones. J'ai eu la chance de vraiment là même là de rester chez eux tout ça, tu sais, pour discuter. Puis là ben il y en a un dit ben moi dans mon affaire c'est illégal de travailler le dimanche parce que je veux que tout le monde se repose. Là j'ai dit ouais, mais ça c'est une bonne c'est une bonne cause, mais j'ai dit, on a besoin des médecins le dimanche, du monde qui sont pompés ou quoi qu'un accident, besoin de même du monde.
C'est encore d'imposer quelque chose,
c'est d'imposer.
C'est ça, exactement. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce monde-là qui viole la règle? Tu vas-tu les mettre en prison? Puis j'ai dit, pourquoi pas créer un système économique favorable que le monde peut gagner assez durant la semaine, que le dimanche, ils peuvent se reposer, ils n'ont pas besoin de travailler. Si la personne travaille le dimanche, souvent, c'est peut-être parce qu'elle aimerait avoir un petit peu d'argent, parce qu'elle a de la misère à arriver. Donc, peut-être qu'elle va pouvoir se payer une petite sortie ou quelque chose comme ça, ou juste qu'elle a de besoin. Puis j'ai dit, on a besoin du monde qui travaille le dimanche. Puis c'est pas à l'État à choisir. On
c'est ça, c'est volontaire. C'est une action volontaire.
Mm-hmm. C'est ça. Que si tu vas au restaurant, qu'il y a quelqu'un qui va au restaurant, les repas, ça se cuisine pas tout seul. Puis le marché va faire que si tout le monde veut rester le dimanche, c'est un peu comme à Noël, ben si tu te dis moi je paye salaire trip pour quelqu'un qui travaille la journée de Noël, il va y avoir quelqu'un qui va être volontaire, dit ben moi gars, mes enfants ils ont 2 ans, ça dérange pas si on rouvre les cadeaux le 24 ou le 26, ça veut dire tu sais pour 3 fois le prix, je vais le faire, puis si c'est pas 3 fois, c'est 4 fois le prix. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit moi je vais le faire, le travail, je vais travailler nuit, c'est toute une question volontaire plutôt que d'être imposé. Donc, je cherchais pour une communauté, j'en ai contacté peut-être une 10-15aine. Chacun avait comme un peu, je dirais, qu'est-ce qu'on appelle intentional community, avec une intention. Mm-hmm. Mais j'en cherchais une que l'intention, c'était la liberté. Puis, pas facile.
C'est assez de base,
ils ont,
hein?
ils ont toutes leurs propres affaires. Puis, mettons la personne qui est en tête, tu dis, ah oui, cette personne-là est bonne. Mais là, tu dis, qui va être le prochain leader? Ça va être son fils. OK, son fils habite même pas là. Ça, c'est un cas vrai. Il habite dans un autre pays. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire, lui, s'il habite pas là? Il s'en fout complètement. Il peut faire toutes sortes de règlements. Puis, j'ai eu une expérience qui a quand même été très bonne au travail. Puis, j'avais un ami qui était dans une autre équipe. Puis, c'est relié. Je vais juste expliquer pourquoi que j'en suis là. Puis, il me disait, je comprends pas. Il dit, je vais dire ma boss pour juste distinguer entre le gars et le fait. Je pense que c'est une femme aussi. Il dit, est toujours après ce gars-là, est toujours en train de le critiquer, toujours en train de l'abaisser, tout ça. Puis il dit, je comprends pas, il dit, il a tellement des bonnes idées, il ferait un meilleur boss. Puis là, j'ai dit, c'est peut-être pour ça qu'elle veut pas de compétition. Puis le fait que j'ai quand même été une personne, en général, qui a des idées assez, le monde qui a dit, ah oui, c'est quand même pas mauvais comme idée. Toutes les fois que je rejoins une communauté, j'ai toujours l'impression que je vais me retrouver en compétition avec le leader, tout ça. Donc, il va vouloir, probablement, à un moment donné, c'est lui, je veux pas l'avoir parce que il m'enlève. Je vais donner un exemple. Il y avait quelqu'un qui avait une communauté, puis il dit, nous autres, on n'a pas de taxes. Hey, c'est super, moi, j'aime ça. Puis là, j'ai dit, ben, explique-moi un peu comment que ça va marcher. Puis là, il dit, moi, mais le gouvernement, il possède le terrain, puis le monde, il faut qu'il loue le terrain au gouvernement. OK, ça sent pour moi du fudéalisme, là. Puis oui. En plus, l'ironie, c'est que tu demandes à ces personnes-là qui se disent des grands libertariens, tu dis, est-ce que tu connais Frédéric Bastiat? Est-ce que tu connais Murray Rothbard? Est-ce que tu connais Ludwig von Mises? Puis tous les nouveaux écrivains contemporains, Lew Rockwell, ils ont jamais lu quoi que ce soit. Ils ont jamais connu, ils ont aucune idée de quoi que tu parles, mais ils se sont dit des grands libertariens, là. Puis là, tu leur demandes, qu'est-ce que tu as fait? Ah, moi, j'étais en occupation en Irak, j'étudiais les stratégies de commando. C'est comme, je peux voir ça dans le domaine libertarien, tu sais. Puis là, il veut faire sa propre communauté, là. Puis là,
en fait, qu'il fasse sa propre communauté, c'est de ses affaires, mais que, je comprends un peu ton côté, désemparé de la chose. Moi, ça me fait penser un peu à des community gates. Chaque community gate arrive avec leurs règles, tout ça. Puis tu te soumets ou bien tu vas ailleurs.
Sauf c'est la toi, raison pour laquelle j'ai déménagé. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai déménagé cette semaine. Je suis à deux rues. Je suis sortie de tout ça. Écoute, c'est drôle parce que Je suis pas trop, tu sais, je fais pas des choses trop bizarres là. Je suis pas du genre à peinturer ma maison rouge là. Mais juste de savoir que je peux pas rien faire, je peux même pas étendre mon linge sur la corde, je peux pas rien faire, ça me dérangeait. On est sorti de là pour cette raison-là. Donc j'aurais de la difficulté à vivre dans une communauté comme tu as vu. Mais est-ce que Dan, t'en as trouvé une finalement?
Oui, parce
Oui,
que y a-t-il
je vais
moyen
juste.
également? Oui.
Je vais juste finir mon histoire. Puis là, ce gars-là, c'est ça, là, tu dis, là, je suis en désaccord, mettons, sur un point. Là, tu dis, tu devrais lire un peu, je te recommanderais de lire, mettons, Mises ou Bestia. Puis là, il dit, oh, c'est tous des philosophes idiots. Ben oui, il les a jamais lus, là. C'est un gars, là,
Va bien.
qui se dit libertin. Il les a jamais lus, il les a jamais rien, puis il méconnaît ça. Puis le fameux gars, là, qui parlait de louer son, qu'il fallait que tu loues ton terrain, là, je veux juste
Détail.
revenir parce que c'est toutes des communautés comme ça que j'ai rencontrées. C'était vraiment, épeurant. Là, je dis, mais qui choisit le prix de comment que je loue mon terrain? Ah, il dit, à chaque élection, c'est le président qui choisit chaque terrain. Ah,
Oh,
ouais.
oui.
Fait que là, le gars va dire, ben, si tu votes pour moi, je vous le fais gratuit. Hey. Puis là, mettons, il t'aime pas, là, ben, lui, il peut décider qu'il grimpe ta location de ton terrain à un prix exorbitant, à un point que tu es obligé de quitter parce que tu n'es pas capable de payer ou, tu sais, ça vaut pas la peine de vivre. Là, c'est comme, wow. Ça, c'est ça, cette définition. Puis là, j'ai dit, pourquoi que. Puis c'est comme ça qu'un peu l'idée est venue. J'ai dit, pourquoi que tu n'aurais pas un gouvernement, mettons, qui vend des services qui sont nécessairement gouvernementaux, comme, mettons, permis de conduire, certificat de naissance, des diplômes, des passeports, puis ça financerait un gouvernement minimum. Tu as toujours un revenu parce qu'il y a toujours, je veux dire, mettons, un permis de conduire, ça se renouvelle, tout ça. Puis là, il dit non, il dit, parce qu'il dit, on a des investisseurs qu'il faut qu'il y ait un retour sur leur investissement pour la
Oh
fameuse
bon,
location
okay.
du terrain. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, mon
Alors,
Dieu,
on
mon
vient
Dieu.
au même scénario, le même scénario que le Québec, lui, ses investisseurs, c'est la FMI, les États-Unis, ben écoute, les grandes banques qui sont les investisseurs. Fait qu'on vient, il y a continuellement le principe d'esclavage. Le peuple est esclave de ces investisseurs-là, puis il y a toujours comme une espèce de roue qui continue, là. Fait
Oui,
que tu
puis
t'en sors pas.
moi, mon idée, c'est j'ai dit pourquoi que tu ferais pas un système comme ça, puis chaque personne qui vient, les colonies, ceux qui viennent coloniser le village, ils achètent leur terrain, ils deviennent propriétaires de leur terrain. Donc, et puis là, parce qu'il dit les investisseurs ont pris des risques, j'ai dit ben pourquoi pas que ce soit pas ceux qui viennent coloniser, qui achètent un terrain, puis qui prennent le risque de dire, regarde, ça c'est mon terrain, tout ça, puis je fais qu'est-ce que je veux avec. Plus ou moins dans le sens que tu sais, tu peux pas polluer ton voisin et tout ça, mais si tu veux te bâtir une maison ou un restaurant, tu n'as pas besoin de demander tu sais, permission au voisin ou à la communauté. Et en cherchant, le premier site que je suis tombé, ça s'appelle Charter Cities.
Oui.
Chartercities.org, le monsieur s'appelle Paul Romer. Et c'est un projet, pratiquement le concept, c'est de dire on va créer une ville à partir d'une région non peuplée. Donc, on définit une municipalité ou une ville qui va se bâtir à partir de zéro. Et ceux qui sont intéressés à venir, et cette ville-là, qu'est-ce qui est spécial, c'est que elle fait ses propres lois, elle a sa propre police, elle a ses propres taxes. Le projet est un peu annoncé comme Hong Kong à la Chine. C'est-à-dire que Hong Kong, c'était une colonie plus ou moins britannique qui avait sa propre autonomie, qui avait sa propre monnaie, qui avait ses propres règles. Hong Kong, c'était pratiquement un marécage. C'était aussi pauvre que l'Afrique. Puis, comparé à la Chine, ça l'a poussé incroyablement. Ça l'a devenu. Puis, même après que c'est retourné à la Chine, elle a quand même gardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de son autonomie. Donc, c'est quand même un concept. Les petites villes, comme ça soit Singapour, Monaco, c'est tout, même Liechtenstein, les petits pays, c'est tous des pays qui ont un très, très haut niveau de vie pour leurs citoyens. Ce sont aussi des pays qui sont très, je ne veux pas dire le mot social, mais ils ont des bonnes relations avec leurs voisins. Le commerce, je veux dire, c'est des pays qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas tout produire à l'interne, donc ils ont des frontières très ouvertes pour que les biens, les services, les personnes. Donc, c'est vraiment le concept donc, quand j'ai appris que ce projet-là, ça fonctionne, je me suis dit que ça c'est une opportunité. Fait qu'on a décidé de déménager, ma femme et moi, au Guatemala. La raison au Guatemala, c'est qu'il y a une université qui est une université libertarienne. Qui est pratiquement le cerveau de ce projet-là. C'est une université que chaque étudiant, pour graduer, qui apprenne la médecine, l'architecture, l'ingénierie, l'histoire, l'économie, les affaires. Il faut tout qu'il ait lu Murray Rothbard, Ludwig von Mises, Frédéric Bastiat. Il faut qu'il prenne 5 cours dans ce domaine-là. Okay. C'est vraiment une vraie, vraie, vraie université libertarienne. C'est une
mais Dan, dis-moi donc quelque chose, parce que là, tu parles de l'Équateur, tu parles de l'Amérique centrale. Nous, l'image qu'on a de l'Amérique centrale, là, c'est que c'est des pays du tiers-monde, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de pauvreté. Moi, je suis surprise de voir qu'il y a un groupe libertarien qui veut fonder, c'est ça, un charter city ou fonder vraiment un mouvement.
Ça s'appelle la Startup City. Le nom a été changé, okay. Là. Mais oui, c'est le même principe.
Mais explique-moi comment ça, nous, on a vraiment la perception là, que l'Amérique centrale, là, c'est vraiment épouvantable. Ben, pas épouvantable, mais ce qu'on entend, c'est vraiment pas rose. Puis d'un autre côté, on a comme un groupe d'individus qui pousse à créer pratiquement une société parfaite ou une société, un meilleur monde. Alors, explique-nous donc, démystifie donc un petit peu notre perspective, là.
OK. Premièrement, ces pays-là ont beaucoup souffert. Je pense que la CIA était pendant des décennies, il y a eu des guerres civiles. La population est tannée. La population, premièrement, ici, a une méfiance totale de l'État. OK? L'État, c'est vraiment... alors qu'au Canada, aux États-Unis, c'est comme Dieu. Là. Si l'État a dit c'est la loi, il faut obéir la loi, personne ne se demande, un peu comme j'ai éduqué, il faut obéir aux lois. Là, personne ne pose la question, mais qui écrit les lois? C'est les politiciens du monde qui ont souvent les valeurs morales les plus basses, des menteurs, des voleurs. Je veux dire, c'est pas tout, là, mais en général, là, c'est pas les personnes les plus... les modèles de la société. C'est pas selon mes critères. Ici, c'est pas le cas. Quand que j'ai la chance de parler avec du monde, je m'aperçois que la majorité du monde, ils désirent toute la liberté. Donc, ils savent peut-être pas comment, mais je dirais la culture est quand même très libertaire. Le monde ne demande pas à l'État rien, ne s'attend à rien de l'État. Okay. Pratiquement, la majorité, toute l'éducation, c'est privé, la sécurité, c'est privé, les routes, c'est privé. L'État s'occupe de... L'État est très incompétent. Fait que tout ce que l'État fait ici, c'est lent. Et toute la livraison, c'est pratiquement privé. C'est sûr que l'État a le monopole des postes. Puis quand tu commandes de quoi, ça prend 2 mois à arriver. Là, mais si c'est privé, ils viennent te livrer les affaires à la maison avec des scooters. Là, c'est comme ça que ça fonctionne.
Le peuple comme tel, est-ce qu'ils vont, ils ont une qualité de vie comparable à nous en Amérique ou vraiment c'est...
Non. Okay. C'est beaucoup plus pauvre. Il y a un grand écart entre les personnes riches puis les pauvres. Tu prends la ville de Guatemala, il y a des belles maisons, tout ça, mais si tu vas dans d'autres endroits, c'est pauvre. Un des problèmes dans les pays du tiers-monde, c'est que le monde a beaucoup de la difficulté à acquérir le terrain. Donc, ils vont se bâtir clandestinement. Si tu ne peux pas avoir ton terrain, tu n'investiras pas beaucoup. Les salaires, quelqu'un peut, même un professeur d'école ou d'université va gagner 350 puis 400 $ par mois. Okay? Mais tu peux vivre avec ça. Les loyers sont pas chers. Quelqu'un qui gagne, mettons même un pensionné qui a 500 pièces par mois, là, il est capable de vivre facilement. Le coût de la vie est beaucoup moins cher, surtout si on compare avec les prix d'ici. Les prix sont souvent comparables ou peut-être même un petit peu moins chers. Mettons, si tu achètes des ordinateurs, des TV, tu peux acheter des portables pour 300$. Mais 300$, si tu gagnes 300$ par mois, c'est beaucoup. La connexion Internet va coûter, mettons, 30 $ par mois. Mais 30 $ par mois, si tu gagnes 300$ par mois, c'est beaucoup. Donc, ils sont pauvres, mais il y a eu beaucoup d'améliorations, comme les télécommunications, c'était possédé par l'État, c'est ouvert maintenant. Il y a plus de téléphones qui ont été vendus. Qu'il y a d'habitants au Guatemala, tu peux t'acheter un téléphone pour 10$. C'est ça ce que j'ai en passant. J'ai un téléphone qui vaut littéralement 10$. Tu l'achètes dans un kiosque, puis tu pars avec, puis il fonctionne. Ils ne posent pas de questions, ils ne posent rien, ils sont juste contents de t'avoir vendu ton téléphone, tu leur donnes ton 10$ ou l'équivalent de leur monnaie. Tu as une carte SIM qui vient avec, là, que tu peux changer. Fait que si tu n'es pas content, tu t'enlèves ton téléphone, tu peux en acheter un autre. Tu peux acheter une carte de SIM pour 3$, puis ils vont te donner, je pense, 50 minutes en plus de
puis les Startup City, là, ils vont. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand ça. Ben, là, tu parles en Équateur, il y en a d'autres qui vont se créer en Amérique centrale. Qu'est-ce que ça va amener à la population? Parce que moi, ce que je vois, là, d'un œil externe, j'ai peur que ces villes-là qui vont être créées, ça va être comme des ghettos de riches. Et tout autour, tu vas avoir les gens qui vont qui vont continuer dans la pauvreté. Est-ce que je me trompe littéralement en pensant de même? Ou comment, c'est quoi la philosophie?
C'est une bonne question. D'ailleurs, c'est la même question que je me suis posée moi-même. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont pour le projet de Startup City sont vraiment des libertariens. Contrairement à beaucoup, même Paul Romer, puis là je dis ça sur les ondes, fait que j'espère qu'un jour j'aurai pas parce qu'on s'est déjà contacté tout ça. Il est plus étatiste. Il croit, Paul Romer, son article, c'était ben c'est un autre gouvernement qui allait gérer les lois puis tout ça. Il espérait beaucoup que le Canada soit là. Donc le Canada amène ses lois au Honduras. Puis pour moi, c'est un peu comme du colonialisme là, dans le sens que ça va juste être une colonie. Puis même mettons le salaire minimum qui est 10$ au Canada, ben il n'y a aucune chance que ça marche au Honduras. Il gagne même pas ça par semaine là. Donc il y a toutes sortes de trucs. L'idée, c'est que on achète un terrain. Donc, le gouvernement ne donne aucun terrain. OK? Puis, ce terrain-là, c'est du terrain qui n'est pas occupé en ce moment. C'est pratiquement de la jungle. OK? Et la communauté crée ses propres lois, ses propres règlements. C'est-à-dire que si tu veux venir ici, bon, il y a ci, il y a ça. Et ceux qui sont intéressés vont venir. OK? Donc, on vote par ses pieds. Si on veut que ça fonctionne, il va falloir faire des règlements qui sont équitables et tout ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le fait que le Honduras, c'est quand même un pays que le coût de la vie est bas, c'est qu'il y a toutes sortes d'opportunités d'emploi qui sont là, que ce soit à faire des véhicules ou faire de la couture ou tout ça. C'est sûr que ça va être des emplois poches au début. Il n'y aura pas de magie, mais les personnes locales vont avoir... On ne peut pas amener des individus du premier monde à dire on va faire le travail, ça n'a pas le choix de créer de l'emploi local, acheter de la nourriture, tout ça. Ça, c'est le plus bas des choses. Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est un programme qui s'appelle Work for Food. C'est ceux qui sont intéressés, qui sont du tiers-monde, c'est que, mettons, tu as besoin de quelqu'un pour laver ton auto ou tondre ta pelouse ou peinturer, tu peux dire sur un site web, tu mets un peu comme des mini-offres d'emploi, puis les personnes locales qui sont intéressées peut venir pour travailler. Mettons, s'ils travaillent une heure, ils ont trois repas ou quelque chose comme ça. Je pourrais en parler longtemps, on m'a dit que j'ai pas assez de temps. Pour justement intégrer, puis le but, c'est de créer des emplois. Mais le gros de ça, c'est que ça peut devenir le prochain Silicon Valley.
Et ça, mais c'est vrai, puis parce que moi, j'ai eu la chance de lire la constitution, en fait, que tu avais écrit, puis tout ça pour ce... Puis tout se tient là-dedans. Moi, je me dis, as-tu pensé à ça? Ben oui, il a pensé à ça. As-tu pensé à ça? Ben oui, il a pensé à ça. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques en quelques mots comment fonctionneraient les prisons là-bas. Parce que moi, c'est ce qui m'a le plus accroché. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens, des libertariens, qui se disent, bon, les prisons, on fait quoi avec ça? Comment que c'est géré?
Bon, premièrement, c'est ça, c'est le monde, on dit, ah, c'est une utopie. Non, non, je ne crois pas une utopie. Je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup de crimes, mais pour les quelques fois qu'il va en avoir, il va y avoir des prisons. Puis là, la question, c'est comment qu'on fait des prisons si on ne veut pas avoir de taxes? Parce que je suis un peu allergique aux taxes. Donc, dans ma constitution, la seule taxe que c'est pour la maintenance du site web, puis le webmaster, il est élu avec un contrat, comme on embauche quelqu'un, puis c'est les payeurs de taxes qui payent chaque tête, plus ou moins. Là, sauf les personnes handicapées, puis enfin. Les prisons, la façon que ça fonctionne, c'est que dans ma constitution, le monde qui vient, il faut qu'il soit d'accord au règlement. Puis le règlement, c'est que si tu es un prisonnier, le prisonnier a le droit de choisir sa prison. Donc, si, mettons, quelqu'un a fait un meurtre ou quelque chose qui est vraiment digne de prison, pas quelqu'un qui fume un joint ou une affaire de même, là, mais tu sais, un vrai crime, premièrement, il ne peut pas aller en prison s'il n'a pas été un jury. La section 37 de la Magna Carta, qui est écrite il y a 800 ans, dit « No free man shall be put in jail without the trial of his peer ». Fait que ça va être un jury de citoyens qui va décider s'il doit aller en prison. Puis, la prison, c'est que pour être une prison, il faut que tu sois reconnu par le gouvernement. Donc, il faut que tu aies un minimum d'argent en banque. Fait que si tu fais des conneries, tu vas perdre ton dépôt de sécurité. Puis si tu acceptes un prisonnier sans que tu aies passé par un jury, tu perds ton dépôt de sécurité. Donc, déjà là, celui qui va opérer une prison, là, il y a des règles à suivre. Et le prisonnier, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il peut magasiner la prison qu'il veut. Donc, une prison peut dire, ben nous autres, on va te garder pour 1 000 $ par mois, on inclut des repas, on inclut ci. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu peux choisir ta prison, les prix risquent d'être bas, le coût. Puis, ils risquent aussi de t'offrir un emploi dans la prison. Fait que si tu es un programmeur en informatique ou si tu fais des coupes de cheveux ou si tu fais des meubles, ils vont te dire, regarde, on va te donner un bureau, on va se quitter 50-50, peu importe. Donc, tout le problème de violence, de ici, de tous les trucs qui se passent en prison. Le fait que les prisonniers peuvent magasiner, peuvent même écrire des commentaires, ils ont le droit de bloguer. Ça, c'est un droit que j'ai mis aussi, c'est que le prisonnier a le droit d'expliquer son histoire qui est en prison. Là, on me dit que j'ai 5 minutes, fait que je peux pas trop en parler. Là,
c'est un contrat ouais. entre le prisonnier, en fait, et oui. la prison. Et oui, donc, dans si le fond, veut. Tout le problème de, tu sais, le citoyen reste quand même responsable de ce qui va lui arriver, mais bon, il y a quand même un choix. Il y a quand même le choix de décider où est-ce qu'il va aller, mais ça reste une prison. Fait que moi, je trouve ça très bien parce qu'en fait, on va le faire travailler.
C'est une réinsertion volontaire aussi. C'est en fait, contrairement à nous, on paye des millions pour ça, puis finalement, c'est comme si tu motives la personne à se réinsérer, puis si son acte n'est pas si pire, même il pourra retourner en liberté, si je comprends bien.
Oui, oui, puis la liberté, anyway, ça, je pourrais en parler un peu plus, c'est un peu stressant quand on me dit que j'ai plus de temps, mais je pourrais en parler longtemps sur les prisons, puis pas que j'ai de l'expérience personnelle, j'ai jamais fait de la prison, mais j'ai toujours un sens de justice, puis l'idée, c'est que le